In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Pour cette émission qui clôture l'année 2025, je vous offre deux enregistrements que j'ai réalisés dans les mois précédents et que je n'avais pas pu diffuser. Tout d'abord, je vous propose d'écouter la rencontre qui a eu lieu à la librairie Lériot au mois de septembre dernier. Alban Gelet et Naomi Imbert étaient les invités pour la version bilingue du recueil « Mille merci ». Et pour une fois, je ne suis pas au micro. J'ai laissé la place à Sébastien Pitot, le directeur de la librairie. Et dans un deuxième temps, je vous propose d'écouter les lectures que Salima Atala Chetaoui a faites sur une toux pendant le festival Les Préférences organisé fin septembre dernier par la maison Julien Gracq. Mais rendons-nous maintenant à la librairie Lériot.
Ce soir, j'ai la chance de recevoir deux autrices. C'est pas tous les soirs que j'ai cette chance-là, ce bonheur-là, ce plaisir-là. Et puis aussi presque des collègues. Je sais pas si vous savez, mais j'ai une collègue à côté de moi. Qu'est-ce que c'est... J'ai presque envie de poser cette première question-là. C'est quoi le métier de libraire, Alban?
Ah, je me disais.
Parce que Alban a plusieurs vies. On peut être artiste, on peut être poète, on peut être artiste plasticien, et puis on peut être libraire et on peut être poétesse.
Non, je suis pas libraire.
Presque, un peu.
Je suis femme de libraire.
De loin.
J'aide à faire les remises de chèques à la banque, des trucs comme ça.
Ah, la comptabilité.
Pas grand-chose de plus.
Si vous ne le savez pas, il y a une magnifique librairie qui se trouve à Saumur. Je ne sais pas si vous la situez ou le localisez. Il y en a même deux, en fait. Elles sont deux. Le livre à venir.
C'est chouette, un libraire qui fait la pub de notre librairie.
Voilà. Si vous passez par Saumur, si vous descendez... non. Si vous remontez la Loire, il ne faut pas que je la pointe dans le mauvais sens, si vous remontez la Loire jusqu'à Saumur, vous trouverez deux très belles librairies, le livre à venir.
Avec un super libraire.
Qui plante des arbres. Voilà. Alors que quand on est libraire, plutôt on en abat quelques-uns quand même. Hein, je vais vous dire, c'est autre chose.
Mais justement, c'est pour un peu...
Pour un peu compenser, en fait.
Rembourser toute sa dette de ces hommes.
C'est un peu la taxe carbone de la... Ouais, voilà, la grande digression est terminée. Merci à vous. On est là ce soir pour parler d'un recueil qui commence par un titre en anglais. Et je me suis dit, tiens, many thanks, mille merci. Alban, Noémie, comment est né ce recueil?
Alors en fait, mille merci, c'était la version française. donc c'est un petit livre qui ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à celui-là. Il faut que je parle plus fort. Et donc, en fait, j'avais écrit des merci ces dernières années. Finalement, je m'étais amusée à les compter. Je m'étais dit mille merci, l'expression mille merci. J'avais rassemblé mille merci vraiment dans un livre. Et donc, c'était sous forme de liste. Je me suis aussi rendu compte aussi de la puissance, en fait, de cette énergie qui change le rapport au monde, entre parenthèses. Et donc, ce petit mille merci, j'avais décidé de le faire un peu toute seule. Disons que sans éditeur. Je ne l'avais pas envoyé à un éditeur pour une fois. Je m'étais dit, je vais fabriquer ce petit livre sur un site qui s'appelle BOD, enfin bref. Ce petit livre, il circule un petit peu, il fait sa vie sans moi. Finalement, un jour, j'étais invitée dans le collège de Jacques Prévert de Châteauneuf sur Loire, c'est ça?
Sarthe.
Sur Sarthe. Sur Sarthe. J'ai été dans ce collège invitée par Élise, une professeure de français. Qui avait invité les élèves à écrire des gratitudes, justement aussi, à écrire leurs merci. Et avec Noémie, qui est aussi professeure d'anglais dans le même collège, ils avaient travaillé finalement à la traduction par les élèves des merci des élèves. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé par entendre les merci quand je suis arrivée des élèves. Donc, c'était vraiment très émouvant parce que c'est tout le temps assez incroyable, tous ces textes. Et puis, du coup, je laisse la parole à Noémie pour la suite.
Merci. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Bonsoir, merci d'être là. Si ce n'est que je reviens à Saumur deux minutes, parce que c'est là que j'ai découvert, moi, mille merci en français au départ. Un après-midi d'été, j'étais dans la librairie, on ne se connaissait pas encore avec Alban. Moi, j'avais lu pas mal de ta poésie, disons-le, depuis longtemps, mais on ne se connaissait pas. Et quand j'ai vu ce petit livre, je l'ai acheté. Il m'a plu tout de suite. Et puis, effectivement, à l'occasion d'un travail au départ un peu pédagogique mais poétique, a germé l'idée que la version d'Alban devienne une version anglaise. On a évoqué l'idée et puis j'ai commencé par lui proposer d'en traduire 5. Donc je me suis fixé 5 pages en, je ne sais plus, 10 jours je crois. On a testé, on s'est accordé. Et ensuite, la traduction est partie, a démarré de façon régulière pour moi, assez assidue. Je retrouvais mes habitudes d'étudiante, donc ça j'ai aimé, avec mon dictionnaire papier et en ligne, les deux. Et puis jamais sans l'accord d'Alban. On échangeait, on communiquait, on a réfléchi parfois à des touches très franco-française qui était parfois, évidemment, c'est tout le travail de la traduction qui était difficile à faire passer en anglais. J'ai aussi pris conseil auprès d'une tante anglaise à moi pour certaines petites précisions, justement. Mais c'est pas elle qui a traduit, je précise. Donc il y a eu à un moment assez de textes pour qu'on arrive presque à 1000 merci aussi. Ça a été pour moi vraiment très très beau comme temps de traduction. Un peu étonnant parce que normalement en tant que française, j'aurais plutôt dû traduire de l'anglais vers ma langue. L'habitude veut ça, bien sûr. Donc on a fait le pari de faire quand même du thème, comme on disait à la fac. C'est-à-dire j'ai traduit du français à l'anglais. Et puis on s'est rencontrés pour concrétiser l'objet qui est là maintenant ce soir.
Et comment alors du coup vous êtes dit on fait une version bilingue et pas seulement une version anglaise, parce qu'on aurait pu se dire voilà, j'ai une traduction, je la traduis simplement dans la langue mais je mets pas le français, en fait je l'enlève. Alors, moi je me suis dit voilà, Saumur, pas mal d'anglais, une petite idée là-dessus, il y a du public, mais pourquoi avoir fait une version bilingue, parce qu'en fait on retrouve le français et l'anglais.
Parce que moi je trouve ça très beau, j'ai appris à aimer l'anglais comme ça, avec des livres bilingues. J'aimais l'anglais au collège, mais quand j'ai commencé à en lire, je trouvais ce miroir très très beau. Et puis
c'est vrai que c'est pas tout à fait la même version
que la version originale.
Ouais. Ouais. Donc comme ça, c'était intéressant d'avoir vraiment cette nouvelle...
Deux propositions. Ouais. Et vous avez fait quelque chose, vous l'avez expliqué, d'assez rare justement dans une œuvre traduite, c'est que vous avez travaillé ensemble en fait. En général, les droits sont vendus à l'étranger et puis il y a un traducteur, une traductrice qui se met dessus, mais l'auteur, l'autrice n'a pas forcément toujours le regard sur son œuvre dans l'autre pays. Là, vous avez vraiment travaillé de concert, vous avez réussi à vous harmoniser, vous accorder.
Ah oui, ça a été très fluide en fait, depuis le départ. C'était passionnant en même temps, parce qu'il y avait plein de questions, mine de rien. Moi, au départ, je m'étais dit, c'est une liste, ça va être simple. Mais en fait, il y avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup de subtilités, mine de rien, de choses comme ça. Donc c'était vraiment passionnant de préciser les choses, de réfléchir aussi à l'aspect des sonorités, parce que du coup en anglais, des fois, il y avait des choses qui, en français, qui fonctionnaient avec les sons. En anglais, c'était plus pareil, mais Noémie, elle retrouvait des choses différentes aussi avec le rythme, avec les sonorités à d'autres endroits. Enfin, en fait, c'est passionnant. Moi, je sais que les quelques expériences, j'ai pas beaucoup d'expériences de traduction comme ça, ou de travailler avec un traducteur, mais les quelques-unes que j'ai eues, c'était vraiment à chaque fois, j'ai adoré, parce que c'est vraiment Enfin, c'est de l'écriture, en fait.
On accepte facilement de lâcher son texte, de le donner à quelqu'un d'autre. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui réécrit derrière nous.
Oui, ben moi, je fais confiance, en fait. Enfin, dès le départ, c'est vrai que c'était drôle parce que c'est parti d'une boutade un peu dans la classe. Quand j'ai entendu les textes des élèves, moi, j'ai dit « Oh, ben, moi aussi, j'aimerais bien que « Mille merci », ça soit traduit. » et en fait, Noémie a dit « Bah, ok, chiche. » Donc, en fait, c'est parti un peu de ça. Et je sais pas. Après, des fois, moi, je suis un peu... Enfin, je sais pas. Je fais confiance tout de suite. Ça, c'était évident et...
Ça s'est fait facilement. Voilà. Et Noémie, comment est-ce qu'on arrive à faire coller le texte, en fait? Parce que 1000, j'ai pas 1000 dans le many thanks, ça veut dire beaucoup de merci, mais c'est pas 1000 merci.
Alors là encore...
Comment est-ce qu'on arrive à faire ça?
Là encore, donc de 1000, on a un petit peu élagué ensemble avec Alban, puisque certains merci étaient vraiment des références... Très difficile, des références soit très écrites ou des références à des films.
La petite maison dans la prairie, Goldorak.
Ça, si, ça allait, la petite
si,
maison.
Ah oui.
Mais il y avait des choses. Donc on ne sait plus trop, on a gardé Mille Merci, bien sûr, c'est le titre d'Alban, mais l'équivalent anglais, moi je trouvais que Many Thanks, ça coulait de source. Ouais. Parce que ça contient toute cette profusion et puis en même temps. Cette simplicité.
Il y a aussi plein d'expressions, alors qu'elles soient françaises ou anglaises, peu importe dans quel sens on les prend, mais qui ne sont pas les mêmes, en fait. Elles veulent dire la même chose, mais donner sa langue au chat ou donner sa parole, c'est pas la même chose. Des fois, c'est des références à des animaux, c'est pas les mêmes animaux. est-ce qu'on arrive à se retrouver dans... si on prend... c'est mon époque, Albator. Albator, en anglais, c'est Captain Harlock. C'est pas Albator. Albator, ils le connaissent pas. Goldorak, c'est le nom français. Ils prennent le nom japonais qui est Grain Deezer. Donc, c'est pas les mêmes noms. Est-ce qu'on arrive à se retrouver?
Alors, par exemple, je peux donner un exemple. La cerise sur le gâteau. En anglais, c'est le glaçage sur le gâteau, donc ça passe encore. Mais il y a un exemple avec la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En anglais, si on veut traduire cette idée, c'est mot à mot la paille qui casse le dos du chameau. Et en fait, c'est une référence biblique, je crois. C'est alors, ça n'a rien à voir. Et donc, là, par exemple, pour ça, c'était tellement joli, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, parce que c'était dans un texte sur l'eau. Donc, en fait, après réflexion, j'ai essayé de trouver quelque chose avec de l'eau qui débordait, en me disant que l'eau qui déborde, ça suggère cette idée de quelque chose qui ne va pas, quoi, comme la paille du chameau. Donc, des fois, voilà, on ajustait.
Vous écoutez Entre les pages et c'est sur Radio G. Retournons à la librairie Lériot pour la suite de la rencontre avec Alban Gelé et Noémie Humbert.
Est-ce que vous acceptez de nous livrer quelques passages du texte? Nous allons lire quelques passages?
Oui.
Et je vous repose des questions après. Il y a plus de choses à voler dans un magasin d'optique que dans une librairie. C'est pour ça que ça sonne plus facilement.
Merci aux expériences de mort imminente. Merci aux caliméros qui décident un jour de se mettre à rugir de plaisir. Merci aux arbres de reverdir, merci à la cuisine végétarienne, merci à la poésie, merci au soleil dès le matin, à sa lumière quand il se couche, merci au soleil à l'intérieur, merci aux polonia, aux cèdres du Liban, aux araucarias. Merci au feu et à ses flammes, merci au jour qui s'ouvre, merci au cheval, aux chevaux, à leur compagnie, à leur tendresse, à tous les reflets dans les miroirs, merci au café allongé, aux salades de pastèque, feta, échalote, aux glaces au café, aux gâteaux opéra, aux gâteaux apéro, aux guirlandes de marcassins, merci à la maison que j'habite.
Thanks for moments spent at death's door and near-death experiences. Thanks to cry babies who suddenly decide to start roaring with laughter. Thanks to trees for going green again. Thanks to vegetarian food. Thanks to poetry. Thanks to early sunrise and sunset light. Thanks to the sun inside. Thanks to polonias, cedars of Lebanon, and monkey puzzles. Thanks to fire and its flames. Thanks to dawning days. Thanks to the horse, to horses, to their company and tenderness, to every reflection in every mirror, thanks to long black coffees, to salads of watermelon, feta cheese and shallot, to coffee ice creams, to chocolate and coffee sponge cakes, to pre-dinner crackers, to herds of young wild boars, thanks to the house I live in.
Donc les gâteaux apéro sont devenus les crackers. mais comment, qu'est-ce qui est devenu Calimero?
Alors c'est Cry Babies, parce que c'est Cry Baby, c'est vraiment Calimero quoi.
Très bien, parce que Calimero en France, bon, si on est à peu près tous de la même génération ou pas trop loin, on voit qui c'est ou ce que c'est. On voit l'expression, mais est-ce qu'en anglais on l'attrape? Ma question après, elle est pour Alban, c'est de se demander pourquoi autant de merci dans... Alors, vous ne le voyez peut-être pas bien, je me décale un peu. Merci au loup de Sewiri, à la tortue des Galapagos, au cerisier de Mandchourie. Il y a beaucoup de merci dans l'œuvre d'Alban.
Il y en a un troisième qui est.
Oui. Pourquoi autant de merci ou autant de gratitude dans un recueil jeunesse que je vous conseille chaleureusement. Pourquoi tant de gratitude?
Ben, en fait, c'est une source qui est assez... moi, je l'ai découvert, je pensais pas que c'était aussi infini. Et en fait, je me suis aperçue que c'était un peu presque un virus. Enfin, quand on commence, hein, je pense qu'il y en a, plusieurs d'entre vous sans doute qui savaient ça. C'est qu'en fait, on peut plus s'arrêter, quoi. Donc c'est assez infini. Moi, je le vois aussi dans les propositions d'écriture que je fais dans les ateliers. J'aime bien, c'est un petit peu le rituel de fin d'atelier. Je termine par proposition de merci. Et en fait, c'est des fois, je me dis, je vais retrouver des choses, mais non. En fait, c'est tout le temps unique, différent, singulier. Les listes sont complètement... c'est des univers, en fait, aussi. C'est très, c'est très personnel, à la fois. Et voilà, donc, en fait, j'ai eu envie de continuer. Et avec Alain Serre, en fait, il y avait l'idée d'un livre ensemble, et je lui avais envoyé plusieurs petites choses un peu comme ça, propositions un peu, pas forcément abouties, mais des propositions, quoi. Et je m'étais dit, édition Rue du Monde, je pourrais remercier de m'amuser à remercier avec uniquement des lieux, des noms propres, en fait, du monde. Donc je me suis amusée à ça, avec parfois des explications, parfois pas, parfois c'est juste la liste, mais... Donc c'est que des lieux, il y a des animaux, ouais. Il y a beaucoup d'animaux, de végétaux, mais aussi, bon, il m'a fait mettre quelques humains, j'avais un peu oublié les humains.
Mais... ça existe.
Il m'a obligée à en rajouter. et puis après, les auberges espagnoles, le téléphone arabe, enfin voilà, je me suis vraiment amusée avec que la géographie. Et finalement, il a fait...
Avec de très belles illustrations.
Rue du Monde,
très belle. Voilà.
Et finalement, les enfants, je me dis que peut-être ça peut aussi, ça peut être avec la géographie, ça peut être rigolo de l'aborder aussi avec de voir où se trouve chaque chose.
Alors une question aux deux, à la poétesse et à la traductrice, mais aussi enseignante. Est-ce que c'est plus facile de faire rentrer des enfants dans la poésie ou des adultes? Est-ce que le public enfant est plus facile à convaincre de lire la poésie, ou est-ce qu'on peut plus facilement convaincre les adultes? Qui est-ce qui se laisse le plus tenter par la poésie et par les mots?
Je ne sais pas, quand je vois les expériences qu'on a eues au collège notamment, avec des élèves qui sont venus voir, qu'Alban est venu voir, et avec Élise entre autres, ils arrivent à faire des choses incroyables.
Incroyable. Est-ce qu'ils n'ont pas un lâcher prise qui est plus facile, qui est encore pas totalement...
C'est vrai.
C'est vrai. Après, ça dépend des âges et tout. Mais pourtant, même là, c'était au collège, donc c'est quand même les âges un peu les moins enchantés. Et en fait, là, ils ont écrit plein de merci très, très facilement.
Très facilement.
Et c'était impressionnant aussi, l'implication dans leur merci, c'est très émouvant, parce qu'il y a vraiment des choses très personnelles. En fait, ils comprennent vite. Je trouve que pour le travail poétique, c'est aussi un bon exercice, parce que très vite, mine de rien, il y a les questions justement qui se posent du rythme, du son. Donc en fait, tout de suite, ils sentent un peu comment ça va s'organiser, tout ça, quoi.
Ça veut dire ça.
Mais les adultes, ça va aussi.
Ça marche aussi avec les ateliers d'adultes.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'écrire de la poésie, c'est un travail? Ou est-ce que c'est juste du plaisir et du bonheur?
Ça dépend ce que vous mettez derrière le mot travail.
Quelque chose qui peut être un peu contraignant?
Bah, non, moi j'aime bien plutôt le mot travail au sens de quelque chose qui travaille, quoi, qui, comme une
qui
pâte,
mûrit,
comme, du pain, quoi.
Qui grandit.
Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un travail plein de joie, quoi.
De bonheur. Mmh. Et Noémie, maintenant que vous êtes devenue traductrice, est-ce que vous pourriez devenir autrice?
Ah bah je vous le dis pas.
Ah bah on est là pour tout se dire ce soir. Il y avait une émission comme ça, et si on se disait tout?
Non, je sais. Oui, j'aime bien écrire, mais bon, ça reste. Je suis pas du tout. Là, c'est Alban qui écrit.
Mais ça pourrait être un projet personnel.
Oui, oui, bien sûr, oui. Mais de même que j'aimerais bien. Oui, oui, bien sûr, ça, cette traduction qu'on a faite.
C'est déjà un premier pas dans l'écriture.
Oui, bien sûr. Mais. Oui, oui, peut-être un jour.
Alban l'a dit, elle est présente dans de nombreux ouvrages. Alors là, avec ils sont 111, elles sont 111. Autant dire qu'il y a beaucoup qui sont représentés. Ouais. Est-ce que c'est une chance d'être autant...
111 poètes.
Oui,
poète.
Ces mots traversent les frontières. On accepte parfois d'être dans des recueils collectifs.
Ben oui, c'est des belles aventures. En fait, ça, c'est le Printemps des Poètes chaque année qui édite une anthologie. Donc, le Castor Astral et Bruno Doucet faisaient ça un petit peu. Enfin, il y avait deux anthologies par an. Et voilà, donc après, ben, c'est... Moi, j'aime bien aussi répondre... Enfin, ces sollicitations comme ça, des commandes, c'est aussi un cadeau parce que finalement, ben, j'écris ce que j'aurais pas forcément écrit. Ou alors, bon, vraiment, si j'ai rien sous le coude, je prends quelque chose qui est en cours. Voilà, je sais plus, là. Ben là, d'ailleurs, c'était encore des merci, d'ailleurs, parce que... Il n'y a pas que ça, quand même. Mais là, je me suis amusée par rapport aux frontières, justement. Donc, merci aux espaces, voilà, libres, aux jardins ouverts. Enfin, je me suis amusée avec cette idée de frontières dans les merci. Voilà.
Est-ce que je peux vous en demander une autre lecture, s'il vous plaît?
Alors, ben, je ne sais pas.
Je sais pas. Après, c'est... Tu avais mis 14, mais je ne sais pas. Attends.
Oui, si tu veux. Ah oui, c'est bien. 14-15.
On est page 15. Si vous avez le recueil, si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous, il faudra l'acheter juste après. Et si vous l'avez dans les poches, dans les mains, et pire, dans le sac, page 15.
Merci aux petites conversations joyeuses et légères, aux concerts de ceux qu'on aime, aux guitares manouches, aux flûtes bretonnes, aux pianos voyageurs. Merci au rire du petit déjeuner, aux arbres qui grincent, aux arbres qui parlent, aux libellules, aux hippocampes, aux pangolins. Merci aux balançoires en bois, aux draous, aux passoires. Merci aux saumons, aux couleuvres, aux frelons. Merci aux comédies musicales, aux sacs de lettres de ma grand-mère, à l'enthousiasme retrouvé, aux cocottes en papier. Merci aux dates anniversaires, à tout ce qui relie, ce qui nous lie, nous aime.
Thanks to small talk, chatter and banter, to concerts played by people we love, to gypsy guitars, Breton flutes and traveling piano. Thanks to laughter at breakfast time, to trees that creak and talk, to dragonflies, seahorses and pangolins. Thanks to wooden swings, fitted sheets and calendars. Thanks to salmon, to grass snakes and hornets. Thanks to musical comedies, to my grandmother's sack of letters, to joy regained, to paper hands. Thanks to anniversaries, to every link, reunion and sign of love between us.
Merci aux balais cosmiques, aux fourmilières, aux lampadaires. Merci aux tourterelles, aux girafes, aux poissons lunes et aux cochons. Merci aux cycles des saisons, des lunes et des marées. Merci au flou quantique de l'énergie. Merci à l'existence fantomatique des particules virtuelles. Merci aux fleurs de lavande et à l'odeur du romarin. Aux lions de la savane, aux molécules d'oxygène, à l'eau des pluies, à l'eau de mer, à l'eau de source.
Thanks to the cosmic dance, to ant hills and street lamps. thanks to turtle doves and giraffes, to sunfish and pigs, to changing seasons, moons and tides, thanks to the quantum uncertainty of energy, thanks to the ghost-like existence of virtual particles, thanks to lavender flowers and fragrant rosemary, to lions in the savannah, to oxygen molecules, to rainwater, seawater and spring water.
Merci aux légendes, aux magiciens, aux réveillés, aux éveillés. Merci à la précarité des théories, à l'éternité de l'instant. Merci aux tonnelles, aux abris, à la glycine et à la vigne. Merci au thé au jasmin, à la pêche, à la bergamote. Merci aux forêts primaires et aux toutes petites fraîchement plantées. Merci aux robes à pois, aux nappes à pois, aux foulards à pois, à tout ce qui a des pois.
Thanks to legends, to magicians, to bright and wide awake people, to precarious theories, to everlasting instants. Thanks to bowers and shelters, to vine and wisteria. Thanks to jasmine, peach and Earl Grey tea. Thanks to primary and tiny freshly planted forests. Thanks to polka dot dresses, polka dot tablecloths, polka dot scarves, and to everything with polka dots. And polka dots, ça veut dire à pois.
je sais pas, 40. Allez,
40.
Je sais pas comment tu veux. Comme tu veux, toi. On avait 40, 47, le texte 1. C'est quoi? Ah oui, les roquefort, c'est marrant.
Ok. Merci pour les salades aux noix et aux roquefort. Pour le bruit des sabots sur les pavés. Pour les ponts Eiffel, pour la joie des chiens, leur fidélité, leur amour inconditionnel. Merci pour les grilles au-dessus des puits, pour les balustrades, les balcons, les parapets. Merci pour la poésie.
Thanks for walnuts and roquefort cheese salads, for the noise of hooves and cobbled stones, for Eiffel bridges, for dog's joy, loyalty and absolute love. Thanks for great shutting off wells, for handrails, balconies and parapets. Thanks for poetry.
La poésie, elle revient plusieurs fois, c'est normal. Hein. C'est pas une erreur de répétition. Je me suis dit, on peut la remercier plusieurs fois.
Après, il y avait 49. Je sais pas, c'est comme
une
vous.
Une dernière, oui.
Une dernière.
Oui.
Alors...
Je ne vous rendez pas compte, mais vous avez un public subjugué.
Celui-là, je ne l'ai pas, parce que c'est le premier que j'ai traduit.
Ah oui.
Un des premiers. On fait celui-là, non?
Tu veux.
Ou alors les Martinets.
Oui,
c'est très beau.
D'accord.
Ton texte.
49.
La page.
Oui.
Merci au vol des Martinets entre avril et juillet. À leur grand boucan joyeux de cris, de rondes et de jeux. Merci à la mésange charbonnière, à la mésange bleue, à toutes les mésanges. Merci au rouge-gorge d'être venu se poser à cette minute, là, exactement, devant mes yeux. Merci aux tonnelles en fer forgé, aux volets qui laissent passer la lumière, à ce qui étincelle, brille et scintille à la surface de la mer les jours de grand soleil.
Thanks to cheerful swifts flying, chirping, turning and dancing from April to July. Thanks to the great tit, to the blue tit, to all tits. Thanks to the robin for landing under my eyes at that precise moment. Thanks to wrought iron bowers, to sunlight streaming through shutters, to all that gleams, sparkles and glitters in the sun and on the sea.
Eh bien, Alban, Noé, merci. Merci à vous d'être
venus.
Vous allez pouvoir faire dédicacer les ouvrages à nos deux.
Avec
plaisir. Avec plaisir. Et puis, on va vous servir aussi un verre à boire, parce qu'on a tous soif depuis tout à l'heure, à force de parler.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
C'était Damara, extrait du dernier album de Thilassine. Vous êtes bien sur Radio G. Maintenant, je vous propose d'embarquer avec moi sur une toux. Fermez les yeux, on est fin septembre, le temps est superbe, il fait chaud. Salima Atala Chetaoui est assise à la proue. Elle tient à la main des feuilles volantes et la lecture commence.
C'est trop chouette d'être dans un cadre comme ça. Je vais vous lire quelques textes. Durant les mois de mars et d'avril 2020, tandis que j'étais confinée chez moi à Paris, entendant les voisins applaudir à 20h tapantes les soignants éreintés, sous-payés, érigés en héros de la nation, je ne cessais de me poser une question. Si j'attrapais le Covid et devais être intubée dans un hôpital saturé, est-ce qu'on privilégierait mes poumons d'immigrés ? C'était absurde. Le genre d'idée qu'on garde pour soi car on les sait risibles mais qui obsède et angoisse. J'ai fini par en parler plusieurs mois plus tard à des amis français. Mais quelle idée, tu es jeune et on vit pas dans un pays comme ça, tu as le droit aux soins comme tout le monde. Mais cette impression de danger viscéral, la certitude de ne pas être tout à fait comme les autres sur l'échelle de l'humanité tout en étant invité à taire ce ressenti m'accompagne depuis toujours. C'est le genre de sensation difficile à étayer, dont les termes échappent dès qu'on essaye de mettre des mots sur ce qui achoppe, alors souvent pour éviter d'avoir l'air parano, mytho, ingrat ou juste relou. On ne dit rien, on tait ses craintes et on les sent enfler jusqu'à vous écrabouiller la poitrine. J'ai l'habitude des silences. Comme Derek Walcott ou Albert Memmi, j'ai moi aussi passé toute ma scolarité à apprendre les noms des rois et des guerres de France alors même que j'ai grandi en Tunisie. Tout le monde trouvait ça étrange, mais personne ne disait rien. C'était comme ça, Flemission. Après une quinzaine d'années passées dans des établissements français à l'étranger, j'ai atterri à Amiens pour faire des études de médecine. Je ne savais pas encore que finalement ma vie serait envahie par les mots, que je passerais mon temps à suturer les trous laissés par les non-dits qui couvaient en mon sein. Pourtant, je viens d'une famille qui parle beaucoup, en arabe tunisien et en français, parfois même en arabe littéraire et en anglais, d'une famille où tout le monde lit sans cesse et adore assembler les mots en vers et en coups qui comptent triple. Mais il y avait une torpille qui creusait son sillon dans chaque conversation sans que personne n'en parle. À mon arrivée à Amiens, on nous avait donné rendez-vous dans une rue du centre-ville pour la visite médicale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En arrivant, la queue s'étendait sur le trottoir. L'examen avait lieu dans un camping-car médicalisé, garé sur le côté de la chaussée. Une soignante à l'air blasé appelait les convoqués les uns après les autres d'une voix bourrue, les invitant à entrer dans le véhicule d'où elles sortaient en reboutonnant leur chemise au bout de quelques minutes. Ça a fini par être mon tour. Pressée, elle m'a demandé d'enlever mon haut, a mis ses mains froides sur ma poitrine nue sans ménagement ni consentement et m'a placée dans la machine qui prend des radios du thorax pour vérifier que les immigrés débarquent bien sans tuberculose. Bien que n'y ayant jamais été exposée, j'étais sûre que l'examen révélerait que mes poumons aussi avaient été envahis, que mon corps était aussi indigne que mon esprit. Car cette procédure, ces papiers, sa file d'attente avait été précédée par les innombrables procédures, papiers et files d'attente des demandes de visa que j'avais faites au cours de mon enfance et s'y rajouteraient toutes les demandes de renouvellement de titres de séjour et de visa que j'ai dû faire depuis mon arrivée en France au point qu'aujourd'hui j'ai besoin de toutes mes forces pour retenir les larmes de rage qui me brûlent les yeux dans les salles d'attente aseptisées des préfectures et des consulats en attendant qu'un agent sous-payé valide mon droit à exister. C'est comme si, à force d'avoir pleuré dans ces pièces qui se ressemblent toutes parce qu'on m'annonçait qu'il manquait un papier, que j'avais raté un délai, qu'il n'y avait pas de rendez-vous, qu'il n'y avait pas de solution, que je ne pouvais pas quitter le territoire français pendant des mois, même si ma sœur se mariait, même si mon oncle mourait, que je n'avais pas le droit de travailler tant que mon dossier n'était pas traité, même si je crevais de faim. C'est comme si la succession de tous les micro-traumas, de toutes les frontières qui vivent sur les corps bruns avait créé une fissure immédiatement réactivée à chaque nouvelle expérience. C'est l'absurdité des justifications perpétuelles qui éreintent, nécessite d'allouer en permanence un espace mental et financier à l'administration pour lui prouver qu'on mérite, nous aussi, d'être traités comme des êtres humains, même si c'est elle qui nous a farci la tête de l'importance des droits humains, immuables et inconditionnels. Il faut jouer le jeu de l'absurdité, Taire le fait qu'on n'a pas d'autre choix que de présenter de fausses réservations parce qu'on nous demande à la fois de justifier du séjour pour lequel on demande un visa tout en nous recommandant de ne rien réserver au cas où le visa mettrait trop de temps à être accordé ou serait refusé. Taire aussi le fait que les critères attendus ne peuvent être satisfaits que par une infime partie de la population des Suds, que ce sont ces procédures mêmes et la condamnation à ne jamais quitter la terre qui vous a vu naître qu'elles engendrent, qui donnent lieu aux crises migratoires dont l'Occident se plaint sans cesse. Que c'est l'interdit du voyage, la spoliation du quotidien, qui pousse les gens à partir vers un ailleurs inconnu et idéalisé, dont on tait la réalité pour maintenir le mythe et entretenir l'approvisionnement encore corvéable. Un coin de ma tête est en permanence plein d'inquiétude. Une inquiétude dont j'aimerais ne plus parler, car je n'ai plus rien à en dire. J'en ai fait le tour des centaines de fois, et pourtant elle est toujours là à me coloniser la tête, comme elle colonise la tête de tous les gens qui, comme moi, sont nés dans les rangs des humains illégitimes. Pourtant, en France et en Europe, tout le monde croit sans cesse que je le suis légitime. Moi aussi, je croyais que je le serais. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Enfin, je crois, mais moi, je pensais qu'à l'école française, on vous remplissait de France parce que vous y auriez votre place. Je n'aurais jamais cru qu'on m'avait appris tout ça à parler juste et sans accent et 1789 et les affluents du Rhône et du Rhin simplement pour que je devienne un espèce de singe savant, agent de la perpétuation de la domination, inadapté dans la terre de mes ancêtres. Indésirable dans celle qui m'a marqué du sceau de sa culture jusqu'à creuser mon identité des trous du doute. Ce qu'on m'avait dit, c'est qu'en ayant de bonnes notes, en absorbant le savoir de l'autre si beau, si blanc, si riche, moi aussi je serais belle et blanche et riche et je n'aurais jamais à justifier ma présence. Ce qui est finalement arrivé, c'est qu'en Tunisie, tout le monde croit que je ne suis pas d'ici, remarque immédiatement qu'il y a quelque chose qui cloche. Mes mots, mes habits, mes désirs se sont matinés de français, mon air est devenu résolument étranger. En France aussi, tout le monde remarque que je suis arabe, mais trouve ça fou que j'ai grandi en Tunisie. Et elles ont raison, c'est fou d'avoir grandi comme j'ai grandi, d'avoir lu tout Baudelaire, Maupassant, Madame de Lafayette, mais d'avoir un arrière-grand-père poète dont je ne comprends pas les vers, d'avoir besoin d'un dictionnaire pour espérer lire la Constitution ou comprendre les allocutions du président. Là où mes parents espéraient un glorieux avenir assuré par la connaissance de la culture légitime, l'école française m'a soumise aux soupçons des deux côtés, à la nécessité d'expliquer sans cesse où je me place, ce que je désire, d'où je parle, tout en voyant toujours qu'un bout de moi est englouti dans l'antre, indicible. Les monticules de non-dits s'accumulent jusqu'à nous étouffer. Les lois qui régissent le monde sont pleines de ce qu'on ne dit pas. Un sans-papier est toujours racisé. Un racisé a beau se remplir la tête d'Occident pour se blanchir, ce sera toujours un sans-papier en puissance. Colonisés de l'intérieur, ces insensés nous habitent. Nous nous percevons nous-mêmes comme un imbroglio en forme, toujours en quête d'un ailleurs occidental où nous finirions par nous affranchir du poids de notre condition indigne. La quête de papier qui permet de passer de l'autre côté du mur de la ségrégation se mélange sans cesse à la quête des codes de la culture dominante, à la transmission inconsciente d'idéaux coloniaux qui poussent à se blanchir la peau, à se lisser les cheveux, à effacer les traces de notre infériorité imaginée. Pourtant, on parle comme si cette époque coloniale était complètement révolue, que ces traces et ces traumas ne nous agissaient plus de l'intérieur, alors même que je suis née moins de 40 ans après l'indépendance dans ce que j'appelle la Tunisie française, l'enclave coloniale des établissements français à l'étranger. Alors aujourd'hui, je suis incapable de vous dire à quoi mon éducation déracinée m'a préparée, si ce n'est habiter dans un entre-deux qui imite la Tunisie et la France, sans jamais ressembler à l'une ou à l'autre. Pour ne pas sombrer dans le gouffre de cet antre, j'ai décidé de l'investir, d'habiter le trouble, le bin el binin, ma'ach n'habeskej, je ne veux plus passer, ni ici ni là-bas, pour ce que je ne suis pas. I am all the tiny bits at once, j'ai poussé, en gens illégitimes, des graines plantées par l'autre dans une terre spoliée, aux racines coupées, khatelfam mahaj amaou, j'ai un truc qui tourne par rond, qui veut pas comprendre, mouch hab bifem el yuni ouradi. Kif-kif, juste des gens qui essayent de vivre, de survivre, de ne pas se laisser tomber dans les trous légués par l'histoire, in the holy holes digging deep in the depths of our souls. Mais il n'y a pas le choix. Il faut faut aller au-delà, prendre les petits bouts, les attraper un à un. Binidik wahed wahed hatalin twali abd shedd kol shay fard waqt, un corps qui contient sa multitude entre ses mains et qui dit hello, I am Salima and I live in this hole. This is me, the whole me. I am the holy hole. Je suis the in-between, l'entre, le trou, la blessure sacrée pleine des corps partis et des corps transportés et des chaînes de mensonges qui trépanent la tête. Mon corps se nourrit de tous ces non-dits, mes mots bigarrés, ni arabe, ni français, ni tunisien, ni anglais sont ces fruits de papier. Pour survivre à l'entre, mon corps n'a que le choix de s'y enraciner en creusant le sillon jusqu'à le faire parler.
Radio G, vous écoutez Entre les pages. Continuons notre balade sur la Loire avec Salima Atala Chetaoui.
Ce texte-là, je l'ai écrit en disant que je me sens lente entre les deux. C'est vraiment pour moi un lieu, l'entre.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que je pense que j'aurais jamais... Que je me sens... dans un autre de mes livres, dans ce livre, j'avais écrit un moment une phrase, c'est « Le voyage est le seul lieu que je sais habiter ». Et je pense qu'en fait, j'ai été un peu dépassée par tout ce qui, par la manière avec laquelle mon identité s'est transformée. Et que par conséquent, en fait, aujourd'hui, quand je suis en France, enfin, je suis très bien en France et je suis aussi très bien en Tunisie. Mais je suis pas complètement bien ni ici ni là-bas. Ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui sont entre deux cultures. Et je pense qu'il y a aussi cette question de la légitimité que donnent les papiers que je n'ai pas. Et je ne suis pas de nationalité française, donc ça c'est un vrai enjeu dans ma vie, qui va et vient et revient. C'est aussi un enjeu dans un pays comme la Tunisie aujourd'hui, où, on est, où c'est très compliqué politiquement d'être artiste. Enfin, c'est compliqué en France aussi, mais c'est un autre niveau de complexité là-bas. Donc il y a quelque chose où c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, ça reste compliqué, c'est insoluble, je pense. Il y aura toujours, pour moi, une forme d'arrachement et en même temps une forme d'ailleurs, toujours possible. Vous voulez que je vous lise un autre texte ? Vous voulez observer la vue ?
On arrive à faire les deux.
Les deux. Donc c'est un texte qui s'appelle « Mais on est là » et qui va paraître dans une anthologie au Castor Astral. Et j'avais mis une espèce d'épigraphe, au début qui dit If we don't believe men, we already lost. Et c'est quelque chose que dit un personnage dans la série When They See Us. Je sais pas si vous avez vu cette série. C'est une mini-série Netflix où ça parle d'un truc horrible. Où il y a eu une femme qui a été violée à Central Park. Et en fait, il y a eu 5 adolescents de 14-15 ans noirs américains qui ont été jugés coupables de ça. Alors qu'ils n'avaient rien fait et qu'ils se sont retrouvés en prison sur des peines de 7 à 15 ans. Et en fait, finalement, la personne qui était responsable du viol a fini par avouer. Et ils ont été reconnus innocents, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir passé toute leur jeunesse en prison. Et il y a une série Netflix qui revient sur ça, qui est vraiment très bien. Au Festival du Livre cette année, il y a eu une manif anti-Bolloré. Pendant que les manifestants hurlaient en happening sauvage, passait un cortège programmé de corps cuir déguisés en créatures mythologiques. Le drag show d'un côté, les militants gauchistes de l'autre, et moi au milieu, je m'imaginais un Pascal Pro vociférant que le grand remplacement woke s'engouffrait au cœur même du Grand Palais. Ça m'a fait rire, c'était galvanisant de voir ça dans cet espace policé, et puis... Le voile est revenu et le monde a continué à exploser dans l'indécence des politiques. Je ne sais plus trop quoi dire. Il me semble que tout a été dit, mais que ça n'empêche pas qu'on bascule. On a essayé d'utiliser nos mots, nos corps Arsène Réseau pour dosserrer, mauvairer, placerrer, mais ça a chu dans un trou noir dont le silence pèse plus lourd qu'un hurlement. Mais on est là. On a essayé tous les registres de la rhétorique pour captiver notre auditoire. Le pathétique des corps d'enfants estropiés et sans parents, le tragique du destin collectif, l'épique des héros du quotidien, le polémique des « Please don't scroll, I will never forgive you because my family will have died because of you ». On a essayé tous les angles pour faire cesser la pluie des bombes, les corps en fragments de sable entre nos mains. On a entendu tous les discours, du plus niaisement humanisant au plus factuellement froid et calculateur, mais celles qui ne veulent toujours pas comprendre ne comprendront pas. Et celles qui ne parlent que trop tard le font peut-être juste car c'est devenu à la mode. Ce qui rend fou, c'est que c'est absurde de devoir tant essayer, tant se battre pour que cessent de choir les obus sur les corps innocents, pour que cessent d'être exploités des enfants dans des mines de cobalt, pour que le monde civilisé cesse enfin de spolier des peuples entiers pour maintenir le mode de vie ostentatoirement dispendieux de son système qui nous écrase. La lutte pour la vie est tellement évidente, la résistance du vieux monde tellement malhonnête, toute saisie du réel en devient terrain-tente, alors perpétuellement et à temps plein, il faudrait travailler à démêler les mailles qui enferment le sens, alors même qu'on n'a pas le temps, car chaque jour demeure au bout du jour, en guidon dans la tête, mille et une choses à faire, tragédie postmoderne de fragments en fragments. Une tragédie indécente car elle n'est rien face à celle des corps qui meurent aujourd'hui même, des corps qui meurent de faim, des corps à qui on arrache le droit de vivre et qui meurent dans la mer, des corps qui meurent d'un peuple en destin commun. C'est une tragédie pleine du privilège d'être encore, en tout cas pour l'instant, du bon côté de la ligne qui écrabouille. Car on sait bien désormais, surtout quand on vit comme moi dans un corps brun, que ça ne tient pas à grand-chose de devenir la cible de la machine de mort. Mais on est obligé pour essayer de tenir, de se mentir, de se faire croire que tout ça n'existe pas, ou au moins pas à ce point. Sinon on resterait cloîtré dans la tristesse alors qu'il faut, tant qu'on est vivant, tâcher de vivre. Cette tragédie n'est rien, même pas tragique, mais sa répétition, à l'infini, laisse quand même vide à la fin de la journée. Elle laisse désorientée et facile à corrompre car la tête écrabouillée et en bouillie ne sait plus où donner de la tête et... Je sais que dans ma tragédie de trop-plein, réservée à celle qui arrive à vivoter du bon côté du monde, ma vie à moi n'est vraiment pas la pire. Il est des corps, même loin des guerres et des génocides, qui luttent bien plus que le mien pour survivre, et après avoir passé la journée à se tasser les vertèbres, à transporter des sacs qui déchirent les mains pour à peine parvenir à scrape by, quelle énergie ont encore les corps? Quelle énergie a-t-on encore après avoir métro, boulot, dodo, réveil aux aurores? Quelle énergie peut-on encore allouer à la nécessité de tenir et de s'informer pour démanteler la machine qui nous broie? Quelle énergie pour éviter que nos propres mains crament nos rêves à petit feu? Quelle énergie pour au moins faire lâcher prise à l'hégémonie de peur et de haine qui sature nos imaginaires? Souvent, je ne vais pas en manif, car j'ai peur à cause des flics et de mon titre de séjour. Alors, je vois les images parmi les scrolls et ça me manque de hurler en groupe depuis que je l'ai fait pendant des mois entiers lors de la révolution tunisienne, bien que ça n'ait pas empêché le pays de basculer. J'ai fait corps collectif un samedi à Paris et j'ai rarement vu une manif aussi triste. Il y avait à peine des slogans. Il n'y avait pas tant de monde. J'ai pleuré beaucoup en marchant seule et ça m'a fait penser à une procession funéraire pour toutes les personnes en Palestine, au Liban et au Congo et ailleurs qui meurent gratuitement pour nourrir un système qui les hait, ne les voit pas comme des humains, même pas, je crois, comme des êtres vivants. Et de toute façon, au vu de la manière avec laquelle les systèmes coloniaux et extractivistes maltraitent la Terre, détruisent à tour de bras ce qui a coûté tant de sueurs, de souffrances, d'écosystèmes qu'on ne recréera pas, je crois qu'elles ne savent pas ce que c'est que la vie. Nous, we are carrying guilt for things we cannot change. It feels like all we see has given us the guilt of knowing what everything costs, what each and every one of our actions cost, and we have yelled and lost our breath, and now is dawning upon us the realization that there is only little that we can change, at the moment anyway, and yet we still have to find the strength to live through this. Qu'est-ce qui reste encore de soi quand on a tout vu pleurer, hurler, que quelque chose en soi s'est rétréci, n'ont pas la capacité à ressentir, car comment ne rien ressentir face à un corps mort qui n'a jamais atteint l'âge de parler? On sent toujours la violence, elle nous heurte profondément, mais la souffrance semble avoir été corsetée, elle vit désormais recroquevillée au fond du gouffre en soi et attire elle aussi vers le vide d'être, car qu'est-on encore quand le monde nous assène qu'on n'est rien, qu'on se l'assène aussi à force de l'entendre? Quand on a eu l'incrédulité, la rage et pleure, la peur au ventre pendant tellement longtemps, on n'a plus d'autre choix que d'aller derrière le voile des convenances, s'asseoir dans la violence, la regarder, s'épanouir autour de soi pendant que rétrécissent nos possibles, pendant que se contractent nos croyances, notre confiance dans le monde, pendant que disparaît tout espoir dans la justice. Ce qui nous reste désormais n'est plus que nous-mêmes, nous qui nous réunissons pour tenir, contrebalancer la haine par l'ardeur de nos rêves millénaires. Derrière le voile, nous siégeons désormais unis par toutes les violences que l'Occident assène sur nos corps racisés, prétendant sans cesse que raser notre culture de non-civilisés, qu'elle soit dite tribale, sauvage, terroriste, antisémite, les mots divergent selon les époques, pour nullifier nos cultures et la violence légitime qui en émane face à la menace de notre disparition. Mais le point commun de toutes ces terminologies qui ont varié au fil de l'histoire, c'est le mensonge selon lequel nous écraser vous civilise. Je vis désormais par-delà le voile. Et plus rien de ce qui avant me semblait important n'a maintenant de sens. Pleine de ce savoir que je ne suis rien, même pas un petit quelque chose, ma tête n'est plus ma tête. Elle est une bouillie qui ne fonctionne plus très bien, tourne autour du trou où est tombé le sens. Alors je mets de l'ordre dans mon appartement, faute de pouvoir changer l'ordre du monde. Nous portons une faillite en gouffre abyssal, et même si on renversait miraculeusement la tendance, demain on aurait encore et pour toujours la faillite au fond de nos entrailles. Ça pourrait être une blessure sacrée à partir de laquelle rebâtir le monde. Les morts seront toujours morts pour rien. Je me demande souvent si je suis arrivée au bout de l'écriture. Je voulais prendre les mots pour en faire des armes, prendre les mots et les théories et les concepts et les digérer, faire comme Saint-Levant qui a mis dans ses chansons Bella Hadid et Edouard Saïd on the road to Haifa in a Tesla. Mais je me demande aujourd'hui ce que peut encore un livre contre une balle. J'ai lu un jour une anecdote sur un missionnaire qui avait pris une flèche dans le cœur alors qu'il voulait aller rencontrer les autochtones de l'île des Sentinelles. C'est une des dernières communautés autonomes du monde qui attaque à mort, qui tente de pénétrer dans son territoire. Sauf que ce missionnaire n'est pas mort, car contre son cœur, il avait dans une poche une Bible et c'est elle qui a pris la balle et lui a sauvé la vie. Sa vie d'homme qui voulait convertir et civiliser ce qu'il voyait sûrement comme des sauvages. Il ne sert à rien de rentrer dans une interprétation mystique sur le pouvoir divin de ces pages, de toute façon pas fact-checker cette information, qui n'est probablement qu'un poste putaclique de plus, mais Bible ou annuaire, réalité ou mythe, ce qui compte c'est l'épaisseur du tas qui a constitué un bloc suffisamment épais pour devenir un bouclier de fortune. Derrière le voile, il ne reste de nous que l'enveloppe du rêve et nos douleurs crispées en boucliers de sang. Un peu de quoi tenir, se réunir en groupe et lever des euros qui viennent se heurter aux milliards des bombes. Et le flux semble parfois tellement écrasant que ça semble souvent ridicule de tenir, mais si on ne tenait pas, on vivrait à moitié, encore à moitié mort, qui erre empli de haine. On ne convaincra personne. Les mots sont pour les jours où on manque de force et qu'il nous faut du feu pour poursuivre la lutte et faire tenir quelqu'un d'autre, même des pas encore nés, tandis qu'on cultive, en lisant d'autres mots, la verticalité qui manque à notre dos.
Merci à la librairie Lériot et au festival Les Préférences d'avoir accepté qu'Entre les Pages pose ses micros pour vous offrir ces moments privilégiés, mais c'est l'heure de rendre les clés du studio. Au cours de l'émission, vous avez entendu Damara, un titre extrait de The Road, volume 3 de Thilassine. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 14 janvier à 17h avec trois invités, Élise Goldberg, Martin Page et Camille Kouassi. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée et une année 2026 la meilleure qui soit. Et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique. Thank you.
J'avoue, quand tu danses, je chavire tendrement. C'est vrai, je veux que ça dure longtemps. On ira dans ces lieux où on a su s'aimer. Même si chaque filet déchiré, je le vois dans tes yeux. Le temps est si précieux. Je le vois dans tes yeux. Prends mon cœur si tu veux. Dis-le-moi dans les yeux. Si tout ça n'est qu'un jeu. J'avoue, dans tes yeux, qu'est-ce que c'est doux. C'est fou, je me mets à genoux. Quand toi, tu te cambres, moi je fonds. Danse avec moi, jusqu'au dernier rayon. Je le vois dans tes yeux, le temps est si précieux. Ça n'est qu'un jeu. Dis-le-moi dans les yeux. Prends mon cœur si tu veux. Ah. Tu veux.